Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum l'Épargne, notre partenaire. Quorum l'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget, et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant, et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum l'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum l'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN. Et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Eh bien, salut Perrine.
Bonsoir.
Re-salut. Hey, écoute, je suis hyper heureux d'être là ce soir. Bon, je te l'avais pas dit encore, même si on avait un petit peu préparé cet épisode avec les petits messages et en s'appelant une fois, mais je suis vraiment très très heureux d'être là ce soir parce que déjà en tant que triathlète, ça fait un petit moment que je te connais, que je vois tous tes défis, que j'ai vu. Et ça fait un petit moment que je te suis et je me suis toujours dit, tu vois, le jour où je te contacterai, ben, ça serait pour faire un épisode un petit peu différent, tu vois, de peut-être de ce que je fais d'habitude ou ce que toi tu peux faire d'habitude Et je te vois un petit peu vraiment comme la reine de l'ultra, tu vois, en France, vraiment celle qui fait tous les défis, tous les plus grandes courses qu'on peut rêver de faire et même les challenges qui me sont impossibles. Donc, j'avoue que je suis un petit peu ému ce soir. Donc merci infiniment d'avoir accepté l'invitation sur Extraterrien. Voilà.
Bah, merci à toi de me recevoir. Je sais pas si je mérite tous ces louanges, mais c'est très gentil. C'est vrai que bon, bah, je fais quand même pas mal de choses. Il y a un peu d'excès sur ces dernières années, j'avoue.
Un petit peu d'excès, tu trouves? C'est comme ça que tu le qualifierais?
C'est comme ça que, non, moi je le qualifie pas comme ça, je le vois comme une évolution, on va dire. Après, oui, il y a un peu de boulimie et de... c'est vrai que si je regarde extérieurement, j'aime l'idée de faire toutes ces courses qui m'ont fait rêver ou qui me faisaient peut-être pas rêver il y a des années parce que certaines je les connaissais même pas. Mais à partir du moment où quelqu'un m'en a parlé avec passion, du coup ça m'a donné envie et puis une autre en amenant une autre. Et donc c'est là où je parle plus d'évolution. En fait, c'est comme, regarde, dans une carrière professionnelle, on évolue, on reste pas toujours sur le même poste ou la même chose. Et finalement, c'est un peu la même chose dans ma vie personnelle. C'est plus une évolution, ouais. Mais c'est vrai dans l'excès, dans le sens où oui, je vais à fond, je vais au bout des choses, ça c'est sûr.
Mais tu vois, je trouve pas autant que ça soit dans l'excès. Alors, t'as peut-être eu une progression peut-être très rapide et il y a peut-être beaucoup, beaucoup de projets que t'enchaînes et tout. Mais autant, je trouve, tu vois, l'évolution, je trouve cohérente, tu vois, on reparlera peut-être effectivement de boulimie un peu sportive, aussi de rigueur d'entraînement, parce que je sais que t'es une, enfin, je te considère comme une machine, quoi, quand je t'entends et que tu dis que pendant un an tu t'entraînes sur un seul objectif et que tu t'y tiens et que t'arrives à avoir cette rigueur-là. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour ça et je pense que c'est quelque chose que les gens voient pas toujours, tu vois, la rigueur et la ressource mentale de motivation qu'il faut quand tu prépares un projet et que en fait c'est un an d'entraînement et que finalement les gens retiennent que l'exploit sportif à la fin. Selon moi, l'exploit il est les 364 jours avant.
Ouais, absolument.
Mais écoute, attends, j'ai tout de suite envie de rebondir parce que tu disais que ouais, ces projets c'est il te donne envie quand tu rencontres quelqu'un qui te les raconte. Qu'est-ce qui te touche? C'est quoi? C'est la nature? C'est les rencontres? C'est ouais, leur histoire à eux? C'est quoi l'émotion qui te fait chavirer?
Bah, en général, ce qui fonctionne bien, tu me racontes une course et tu me dis, tu me décris les lieux et c'était extraordinaire. Alors ça, c'est sûr que ça marche à tous les coups si c'est un paysage magnifique, si l'effort aussi est incroyable. J'avoue que j'aime l'effort, j'aime dire que, en fait, j'aime bien l'idée de prendre le départ et me dire est-ce que je vais y arriver ou pas, finalement.
Ouais.
Ça, j'aime bien ça aussi, mais c'est vrai que bon, ce qui me porte, c'est vraiment la nature. Ça, c'est vrai que c'est quand même un des moteurs les principaux. Et je pense que c'est le numéro un, d'être dans un endroit magnifique. Après, j'ai pas fait que des courses qui étaient, quand tu regardes l'enduroman, c'est pas beau, quoi. Mais en général, quand même, l'environnement, la nature, la montagne, souvent, voilà, ça c'est ça. Tu me racontes ta course et il y a ça, ouais, ça me fait rêver. Après, il y a les courses mythiques parce que je me dis plus par curiosité, les courses mythiques, tu vois. Bah, si bien que là, je pense que je vais me lancer sur le marathon des sables l'année prochaine. J'avais pas du tout envie jusqu'à présent. J'aimais pas le concept. Okay. J'ai jamais fait de course à étapes. Mais je m'étais toujours dit, un jour, je le ferai. Et puis là, je me dis que tant que je suis au Moyen-Orient pour préparer, c'est quand même idéal. Et puis cette année, j'ai suivi la course, en fait, sur Instagram. J'ai suivi des coureurs. En plus, cette année, c'est vraiment difficile. Et d'habitude, je la suis pas vraiment, et ça m'a donné envie de suivre les gens de cet effort, et je me suis dit, ah ouais, c'est quand même quelque chose. Et surtout, je pense que ça doit être sympa aussi de vivre avec un groupe de gens, et tu dois vivre dans ces sacrés moments. Après, à niveau paysage, c'est vrai que, bah, moi, je suis dans le désert très souvent, donc ça va moins me toucher, mais, enfin, il y aura pas de nouveauté, mais voilà. Donc, c'est vrai qu'aussi les courses où tu partages des moments avec des gens, comme le Northman, où t'es avec moi, j'étais avec ma famille, c'est C'est des liens qu'on aura toujours. On se souviendra toujours du moment où on a fait ça ensemble, Norseman, alors que tu te souviens pas d'un triathlon avec ta famille. Tu te souviens à la fin, le repas, avant, comment tu les enquiquinais. Mais, mais pendant la course, je veux dire, à part au 35e où ils t'ont dit aller, bon, voilà. Et c'est quand même assez exceptionnel de partager une course ou quand, bien sûr, sur des ultras, ce qu'on vit avec Steven, quand, ce qu'on a vécu sur, la Swiss Peaks ou le Tour des Géants où lui pendant l'ultra bah il est là tous les 50 km. Ouais, j'aime aussi ces courses où on partage, même si je suis quand même quelqu'un qui aime aussi les événements complètement solo. Ouais. J'ai les deux côtés. Ouais.
Mais tu vois, c'est ce que je trouve assez passionnant un peu de regarder un peu ce que tu fais de loin, c'est que tu trouves toujours dans chaque défi quelque chose d'un peu fascinant ou un nouveau challenge, tu vois. J'ai l'impression, tu vois, il y a toujours une nouvelle chose qui vient t'émerveiller. Et j'ai l'impression de et même quand on te parle, on sent tellement de passion, je trouve.
C'est la façon dont je regarde la vie et les choses, hein. Je sais qu'il y a des gens qui sont venus me voir à Riyad là il y a pas longtemps, qui me disaient mais c'est moche et tout. Mais moi tous les matins, j'arrive à m'émerveiller de. Je sais pas, bon, on courait au même endroit, mais regarde, il y a un petit renard là, tu te rends compte, on voit un renard en centre-ville, c'est incroyable, tu vois. Moi ça me fait ma journée parce que j'ai vu le petit renard le matin à 5h, tu vois, et bon, et c'est vrai que j'étais à côté de l'autoroute, mais et que c'était pollué et voilà, mais moi je j'ai vu le petit renard, quoi. ça dépend comment tu vois les choses.
Ouais, c'est toujours ça, ouais, effectivement, une question de voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein ou voir effectivement le détail qui émerveille tout un paysage, quoi.
Ouais, après, je suis pas quelqu'un de la personne la plus optimiste au monde, hein, mais par contre, j'arrive à voir le monde, à essayer de voir la beauté dans toutes les choses, ça c'est vrai.
Ok. Et tu penses pas que c'est un, que c'est quelque chose, enfin que c'est un point commun que les gens ont dans l'ultra de manière générale. Tu vois, il y a cette capacité effectivement peut-être à être un petit peu connecté à la nature, connecté à l'effort et à trouver aussi des ressources mentales où t'es obligé d'être positif, d'aller chercher des choses belles en fait dans ce que tu fais alors qu'il y a énormément il y a une partie de souffrance en tout cas.
Bon, alors déjà, moi, je suis pas à la tête de la course en général. J'espère que ça viendra un jour, mais sur du très 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 long, pas sur un UTMB, ça arrivera jamais. Mais donc déjà, on a un peu plus le temps. Donc ouais. C'est vrai qu'en Ironman, j'ai jamais trop pris le temps de regarder le paysage. Je regardais plutôt les autres concurrentes que je devais battre, mais. C'est vrai que en ultra et puis en ultra que ce soit à pied ou à vélo finalement t'es quand même dans un environnement nature, même si moi en ultra à vélo j'ai plutôt fait que de la route pour l'instant, enfin un peu de gravel avec Steven, ouais. Mais surtout à pied t'es vraiment connecté à la nature, t'es en plein dedans, donc c'est ta force, c'est là où il faut aller puiser, tu vois. Moi j'ai un souvenir de demain, il y a la Diagonale des Fous après-demain qui te commence. J'ai un souvenir de ma première nuit à Diagonale des Fous. Je prends une claque parce qu'il faisait moins 5 et je m'attendais pas du tout à ça. J'avais pris aucun habit. Il y a quelqu'un qui me dit, tiens le coup, quand tu entendras le colibri, tu seras sauvé. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte, quoi? Mais tais-toi, le colibri. Si, tu verras. Et à un moment, j'entends les oiseaux. Et voilà, ça veut dire que le soleil va se lever et que ça y est, tu vas avoir chaud. Et en fait, les nuits d'après, j'attendais le bruit des oiseaux et le chant du colibri. Cette personne, ça m'est resté, quoi. Et du coup, j'écoute plus. J'aime les sons de la nuit aussi. T'entends les animaux ou t'entends le silence. C'est agréable d'entendre le silence. Dans le désert, j'aime beaucoup entendre le silence aussi quand il n'y a pas de vent. Donc c'est vrai que tu as une véritable connexion et c'est là où tu vas puiser ta force à un moment quand vraiment t'es dans des, physiquement très fatigué.
Ouais. Et t'as essayé de chercher au fond de toi ou je sais pas même d'en parler pourquoi qu'est-ce qui te motivait à aller toujours chercher un petit peu plus, tu vois? Aller faire du plus en plus long ou du plus en plus dur entre guillemets.
Je pense que depuis que je suis toute petite, j'ai cherché à faire des choses différentes et d'avoir une vie original, exceptionnel, j'en sais rien. C'est quelque chose que j'ai en moi. Et alors, ça, pour certaines personnes, c'est pas exceptionnel et c'est pas du tout ce qu'ils ont envie de faire. Hein, mais c'est vrai que moi, c'est ma conception à moi. Je veux dire, il y a pas de.
Ouais, il y a pas de jugement. Ouais.
Non, non, je donne pas de leçons. Et mais c'est mon sens à moi de l'exceptionnel. Il y a souvent des situations où je me dis, enfin même tout le temps, je me dis, mais qu'est-ce que. Enfin voilà, qu'est-ce que la chance d'avoir vécu ça, c'est je disais il y a pas longtemps dans une interview aussi, je disais j'ai vraiment la vie que j'aurais aimé avoir quoi, parce que alors bien sûr hein, dans l'ensemble je veux dire de ce côté je vis des choses qui sont incroyables que j'aurais jamais cru possible, il y a des choses que je connaissais même pas il y a quelques années et à chaque fois je découvre et je vis des choses exceptionnelles et ça c'est vraiment une chance.
Ouais. Tu t'estimes aujourd'hui quoi, t'as la vie idéale du coup?
Bah la vie idéale, bien sûr que c'est compliqué. De moi, je suis expatriée, je vis au Moyen-Orient, alors c'est pas facile d'être loin des siens. Évidemment, comme tout le monde, il y a des journées où j'ai pas envie d'aller au boulot. Mais quand je te dis la vie idéale, c'est que je suis heureuse, j'ai une balance qui me convient, qui je pense ne sera pas. Je pense qu'on cherche toujours l'harmonie, qu'on cherche toujours à vivre avec ses contradictions. On a tous des contradictions. tout le monde a des contradictions. Il faut arriver à vivre avec, les accepter. Moi, j'ai mis du temps à les accepter. Notamment quand j'ai ma pratique sportive, comme tu le disais tout à l'heure, elle a débuté il y a pas très longtemps. Il y a des moments où j'assumais pas qui j'étais. J'assumais pas de délaisser un peu mes amis qui sont très importants pour moi, qui sont mon moteur et que j'ai. Ben, je les vois moins maintenant, ça c'est sûr, parce que je suis plus axée sur ma pratique sportive, mais ils font vraiment partie de ma vie. On est toujours énormément en contact et tout ça. Et j'assumais pas trop aussi, bon, mais tu sais, puis tu t'exposes sur les réseaux sociaux, et puis t'as toujours des gens qui te disent, non, mais de toute façon, t'as toujours des gens, tu fais ça, mais tu vas pas vite, enfin, tu vois, et tu t'assumes pas à ta place. Et maintenant, je pense que j'ai trouvé ma place à ce niveau-là, et j'assume complètement qui je suis. Et c'est dans ce sens où j'ai l'impression de vivre en harmonie avec moi aujourd'hui. Maintenant, je sais que les choses évoluent dans la vie, que ça se trouve, il y aura quelque chose de différent l'année prochaine. J'espère continuer à trouver l'harmonie. Oui.
Ok, ouais. Et
bien sûr qu'il y a plein de choses que j'aimerais qu'ils soient différentes aujourd'hui, tu vois. Mais voilà, la balance, elle est quand même pas mal.
Ok. Ouais, j'imagine. Mais en tout cas, tu sais, sur la partie sportive, je te comprends, comme je te disais, tu vois, moi, je me suis un peu frotté à l'ultra et tout, j'ai eu des soucis de santé après, mais donc, je le comprends totalement, tu vois, cette soif de défi, de connaître un petit peu plus ses limites, d'aller chercher des nouveaux décors, d'aller chercher des nouvelles sensations, d'aller chercher au plus profond de soi, d'essayer de se prouver peut-être aussi par moment. Alors je pense pas que ça soit le cas de tout le monde, mais te prouver, de se poser la question, est-ce que je peux y arriver? Mais si je te posais la question, c'était ouais aussi à côté sur le côté un peu professionnel, parce que je trouve que tu prends pas mal de risques, tu vois, en allant justement en t'expatriant, et je me demandais si ça aussi, tu vois, c'était un choix justement voulu pour un peu créer la différence, enfin avoir cette vie un peu différente. Et
le choix de ma première expatriation, même si j'ai quand même eu des expériences au cours de mes études, j'ai déjà vécu dans plusieurs pays étrangers ou dans des stages où j'ai vraiment habité, mais ma première expatriation, elle a quand même été le moteur de tout tout le départ des excès de sport en tout genre. mais aussi, ça a été en fait, je suis partie parce que j'en avais ma claque de Paris, j'avais l'impression que je faisais le tour, j'avais besoin aussi d'un nouveau défi professionnel, mais c'était un défi professionnel à plein de niveaux, de nouvelles cultures, mettre en place une nouvelle équipe, etc. Mais c'était aussi avoir des horaires de travail et donc du temps pour moi, chose que je n'avais jamais eue auparavant. Quand tu es avocat en cabinet d'avocat, t'as pas de vie, quoi. Et là, je savais que, bon, même si j'avais travaillé, etc., je savais qu'il y avait une heure où j'arrêtais ma journée et que donc je pouvais avoir un programme et m'entraîner et que j'avais pas ma famille, j'avais pas mes amis et que pour la première fois de ma vie, j'aurais aucune excuse. Et que si je voulais m'entraîner comme une athlète, même une athlète de haut niveau, même si j'en suis pas une, mais j'avais toujours rêvé de faire ça, eh ben j'avais qu'à m'en donner les moyens, me lever plus tôt, me faire un programme, enlever tout ce qui sert à rien dans ta journée, aller boire un café, aller prendre un déjeuner, tous les trucs qui servent à rien, t'enlèves tout et t'organises tout. Bon, moi, je suis un peu psychorigide, hein, j'aime bien organiser. Et quand t'as pas d'enfant, c'est quand même, ça aide. T'as une semaine, très facilement, tu libères énormément de temps pour t'entraîner, si c'est ce dont t'as envie, et tu peux commencer à te fixer des objectifs et tout ça. Et donc, c'est vrai que cette expatriation-là, donc c'est vrai que dans ma vie professionnelle, en parallèle, c'était à la fois des gros défis. C'est difficile d'aller travailler dans un pays où il y a d'autres cultures, où tu travailles avec des gens où c'est pas, on se comprend pas forcément très bien. Mais à côté de ça, c'était quand même beaucoup plus facile d'un point de vue pour sportif, hein, pour arriver à concilier les deux, parce que j'ai des horaires. Voilà.
Ouais. Ok. Non, mais je vois tout à fait. Et ouais, ça t'a jamais trotté dans l'esprit de repasser en France, pas forcément à Paris. Tu disais en avoir un peu ta claque. Et je comprends.
J'ai pensé. J'ai été coincée un an pendant le Covid en France, donc c'est vrai que j'ai réfléchi à rentrer en France. Évidemment, ouais. C'était pas Paris, c'était en province. Et puis j'ai une autre opportunité et je suis repartie. Voilà. Je pense que j'ai encore d'autres envie de m'expatrier, de peut-être d'avoir une autre expérience, et peut-être éventuellement en Asie. C'est très intéressant quand même culturellement, la vie d'expat. Voilà. Donc, okay. On verra.
Ok, ouais. Non, mais ce qui est, enfin, je trouve assez fascinant dans ton discours, effectivement, j'aurais jamais pensé, tu vois, en quoi l'expatriation pouvait être une opportunité justement pour le sport et pour effectivement être capable de s'entraîner plus. Mais c'est vrai que tu changes de vie, t'as tout d'un seul coup il y a d'un seul coup un espèce de vide à combler et tu pars à l'aventure, il y a tout à construire. Et c'est vrai que tu peux construire un peu ta vie et ton entraînement un peu sur mesure, quoi.
Tu repars de zéro. Donc moi, je suis partie, mais même les gens qui ont des familles, hein, les familles expats, en plus, les gens qui ont des familles, souvent, sont dans les pays, t'as des nounous et tout, chose que t'as pas forcément en France. Donc, tu dégages plus de temps, les horaires de travail. La France, c'est un des pays au monde où t'as le plus de présentiel. Donc, en général, quand t'es expatrié, t'as quand même plus de temps devant toi. Donc, ouais. Et donc, comme tu repars de zéro et t'as pas ta famille à côté, tes machins, tu vas pas manger le dimanche chez tes parents, du coup, tu te réorganises comme tu veux. Et moi, quand je suis partie avec un vélo parce qu'on avait discuté avec des copains avant le départ de faire un triathlon. Et je suis partie avec un vélo et deux valises. Et je me suis dit, dans 6 mois, je suis un Ironman. Et voilà, c'était le but, quoi.
Mais c'est pas donné à tout le monde, mais c'est un sacré challenge effectivement, 6 mois pour faire un Ironman, même si t'as un petit peu de foncier. Mais peut-être pendant qu'on est sur cette partie un peu expatriation, là aujourd'hui t'es en Arabie Saoudite, à Riyad. Moi c'est un pays que j'ai survolé, je te disais, en avion, et que j'ai trouvé absolument magnifique. Et pour en avoir vu quelques photos d'un ami qui est allé, j'ai trouvé. Ouais, j'ai trouvé les paysages splendides, ouais, quand on aime la montagne, quand on aime la rocaille, quand on aime un peu le désert, quoi, où mais d'un autre côté, j'ai quand même l'impression que c'est des conditions assez extrêmes, tu vois, peut-être pour une femme et notamment pour une athlète. Tu me disais là à l'instant que s'il y avait des projets sur lesquels c'était un petit peu compliqué. Ouais. Est-ce que tu
Oui. Aujourd'hui, ouais. Moi, je veux bien communiquer là-dessus parce que c'est, si tu veux, sur mes réseaux sociaux, on voit beaucoup mes jolies photos. Ils sont incroyables, de paysages que personne n'a jamais vus. Puisque, en fait, l'Arabie Saoudite, jusqu'à 2019, a été fermée aux touristes. Donc, personne n'a jamais vu l'Arabie Saoudite. Enfin, il y a des gens qui vont dire, oui, je connais quelqu'un, ou voilà, qui a été expatrié et tout ça. Mais avant, ils délivraient pas de visa touriste et ils en ont délivré la veille du Covid. Donc, Donc, il n'y a pas grand monde qui a mis les pieds en Arabie Saoudite. Moi, je veux aussi dire quelque chose, c'est que je suis arrivée en Arabie Saoudite en janvier 2021. Donc, je ne peux attester que de l'Arabie Saoudite d'aujourd'hui. L'Arabie Saoudite a changé énormément en 2019, notamment les droits pour les femmes. C'est ce qui fait que c'est pas la peine de continuer à m'écrire sur mes réseaux sociaux que c'est ce que je fais, c'est une honte. Non, on peut s'habiller aujourd'hui sans abaya en Arabie Saoudite. Okay. On n'a pas besoin d'être voilé d'après la loi. Après,
t'as eu des gens qui t'ont reproché
J'ai l'impression
que c'est un gros sujet là.
J'ai failli fermer mon compte Instagram quand je suis arrivée en Arabie. Ça a été et surtout, ce qui m'a beaucoup choquée, c'est que du coup, les gens confondaient avec le Qatar où j'étais pendant 6 ans, et que du coup, les gens commençaient à mélanger tous les pays et toutes les choses. Et je pense qu'il faut. Je comprends. Moi, quand je suis partie à Doha, je connaissais pas la différence entre Doha et Dubaï. Donc, enfin, j'étais jamais allée dans aucun des deux. Donc je comprends, je veux dire, mais après c'est pas la peine d'affirmer des choses, et surtout sur ma page à moi, ça moi je veux pas qu'il y ait de voilà, je fais pas de la promotion de ces pays. En revanche, moi je montre ce que je vois aujourd'hui, et c'est vrai que moi j'ai, comme je disais, j'ai tendance à montrer ce qu'il y a de joli. Si on m'en veut de pas aller le dimanche prendre des vidéos des workers qui sont exploités, ben non, mais aller sur la page d'Amnesty, quoi. Je veux dire, moi je fais du sport. Aujourd'hui, l'Arabie, en tant que femme, je fais du sport. J'habite dans un quartier diplomatique. Je fais du sport en short. Maintenant, c'est, et du vélo aussi dans Riyad. Après, c'est sûr que quand vous vous baladez, personne le fait. Normalement, moi, je le fais. Mais je vais te dire, le premier week-end, j'ai quitté Riyad parce qu'en fait, à Riyad, il y a des triathlètes, il y a des gens qui s'entraînent, etc. Il y a des endroits où tu fais du vélo, mais t'es au même endroit que n'importe où. Tu sais, partout où tu vas dans le monde, t'as un mec qui fait un Ironman. Hein, donc, il y aura toujours un mec sur un vélo de chrono tout seul. Et qui a ses chaussures à côté et qui va faire son footing après. Ça, c'est partout dans le monde.
Donc, ça, c'est clair, oui.
J'ai visité 100 pays, j'ai vu dans 80. Hein, donc...
C'est une belle communauté, d'ailleurs. Franchement, pour trouver des gens avec qui s'entraîner, c'est une des meilleures communautés. Ouais.
Exactement. D'accord. Donc, le premier week-end où j'ai quitté, où j'ai dit, tiens, je vais sortir de Riyad, je suis partie et je ne savais pas trop comment m'habiller. Tu vois, donc, parce que quand même... Par exemple, je mets une abaya, je mets une veste ou une robe ouverte, tu vois, quand je vais au bureau, mais c'est pas obligatoire. Et quand je vais dans les supermarchés, ça, c'est quand même mieux, c'est conseillé. Et donc, je pars visiter l'est du pays. Et là, je me dis, j'avais pas de voiture encore, il fallait repasser le permis. Et je me dis, je vais prendre le train, parce que c'est un truc de fou, il y a le train en Arabie, il n'y a pas le train ni aux Émirats, ni au Qatar. Donc je prends le train. Donc, déjà j'arrive à la gare, tout le monde me regarde avec mon vélo. J'arrive dans la ville et là j'ai tout le monde qui me prend en photo, les contrôleurs, les machins, les trucs. Bon, intéressant.
Okay.
Et là c'est vendredi matin, donc le vendredi matin au Moyen-Orient c'est comme le dimanche. Hein, y a personne dehors, personne dans les rues parce qu'il était genre 7h du mat. Et je me mets à rouler, tu vois, je m'étais fait un petit itinéraire. Et là, je commence à avoir les voitures qui me suivent, bon, qui reviennent, qui viennent. Et là, je commence à stresser, quoi. Je me dis, je pense que je fais quelque chose que...
Wow.
Enfin, tu sais pas, quoi. Tu sais pas, parce qu'en fait, personne ne le fait, quoi. Donc, tu sais pas si ce que tu fais, c'est bien, c'est pas bien. J'étais dans plein de pays toute seule, mais les pays qui étaient un peu chauds, j'étais assistée. Par exemple, quand je suis allée à Madagascar... J'avais une voiture avec moi. En Éthiopie, j'avais un mec qui me mettait dans les hôtels, dans les villes, parce que sinon, je me faisais... dès que j'arrivais à l'entrée des villes, on me piquait les affaires sur mon vélo, mais on me jetait quand même des pierres aussi dessus. Au Pakistan, j'étais assistée, mais ça, j'y retournerai pas assistée parce qu'il n'y a pas besoin. Mais je sais pas, quoi. Et en fait, au bout d'un moment, je me dis, bon, j'arrête une voiture. Je fais, mais qu'est-ce que vous faites? Tu vois, le mec, je l'arrête. Donc là, il est très gêné. Et pourtant, j'avais une chemise longue, tu vois, j'avais pas osé encore rouler. Et il me montre son téléphone, et en fait, il était sur Snapchat. Il faisait des Snapchat. Et en fait, du coup, tous les gens avaient Snapchat. Ben, ils venaient, ils me cherchaient, et ils venaient faire d'autres Snapchat. Donc en fait, à la fin du week-end, j'avais toute la région qui me cherchait. Et c'était pendant le Ramadan. Il m'a mené à boire, à manger, chose que ça au Qatar, tu vois, tu manges pas et tu bois pas pendant le Ramadan. Mais eux, il m'a amené à boire, à manger. J'ai la police qui est venue, qui me dit, faut que tu viennes voir le lac. Je fais, non, c'est dans des dunes. Je savais que c'était dans des dunes et je voulais vraiment voir le lac. Non, non, c'est dans des dunes et j'avais mon VTT, mais j'ai pas des gros pneus. Ils me mettent le vélo dans la voiture. Ils m'amènent voir le lac et tout. Mais vraiment, d'une gentillesse, quoi. C'était incroyable, quoi. Et le soir, j'ai été invitée. Alors après, le soir, j'ai vu des vrais cyclistes qui sortaient parce qu'avant la rupture du jeûne, ils font un peu d'exercice, en général. Donc, j'ai rencontré des cyclistes. Je suis allée faire l'iftar chez eux, etc. Et donc, voilà, c'était super sympa. Donc, du coup, je me suis dit...
Tu découvres un pays...
Oui, et eux découvrent aussi des touristes et ils sont contents de voir des touristes, ils sont très curieux. Bon, le problème, c'est qu'il y a une vraie barrière de la langue qu'il n'y a pas aux Émirats et au Qatar, parce qu'ils parlent vraiment pas très bien anglais. Il y a aussi beaucoup de bédouins, surtout quand tu vas dans des endroits reculés, tu n'as que des bédouins, donc là, t'as des années et lumières et je vis des choses, pourtant j'ai voyagé, mais en fait, tu es dans un endroit qui n'a pas encore été effleuré par le tourisme. Il y a deux, trois endroits sur lesquels ils sont en train de capitaliser et de préparer qui sont prêts maintenant à accueillir les touristes. Donc, là, il n'y a aucun souci, tu vois. Mais ailleurs, ils hallucinent, quoi. Ils hallucinent et en même temps, ils sont très gentils et je vis des choses qui sont incroyables. Et je crois qu'en fait, je me rends compte que pourtant, j'avais l'impression d'être allée dans des coins reculés. Pourtant, j'avais vraiment l'impression d'avoir vécu des choses. Mais en fait, je pense que j'avais jamais autant à ce point eu des rapports avec des gens qui n'avaient vraiment jamais vu un touriste, quoi. Et ça, c'est assez incroyable. Après, donc, pour en revenir à la logistique des projets, là, je voudrais monter. Donc là, ce que je fais quand je te parle de tout ça, c'est des week-ends où j'ai dit, tiens, je vais aller là. Et je prends ma voiture et après je roule autour parce que malheureusement tu peux pas trop aller d'un endroit à l'autre en vélo, de route, parce que les routes sont très dangereuses. Il y a les voitures qui cartonnent et c'est vraiment très dangereux. Donc je cherche des itinéraires en général où je peux rouler, etc. Et puis sinon je m'enfonce dans le désert, mais ça c'est avec d'autres gens. Tu vas jamais rouler seul dans le fond du désert. Donc ça c'est vraiment super parce qu'on a accès à des endroits incroyables. Mais aujourd'hui, je voudrais préparer un projet qui est la route de l'encens. C'est une route qui traversait le Yémen et qui amenait l'encens jusqu'en Jordanie, enfin même jusqu'en Égypte et jusqu'à Petra. Donc là, l'idée, c'est de, comme évidemment, on ne peut pas aller au Yémen parce qu'il y a la guerre, c'est de commencer à la frontière, si c'est possible, parce qu'il y a quand même pas mal de conflits sur cette zone où je suis allée moi, notamment aussi. Et d'aller à vélo avec Steven sans doute jusqu'au nord du pays. Et alors si c'est galère parce que déjà t'as pas de carte avec les routes déjà, enfin t'en as mais c'est jamais très clair. Donc t'as personne qui peut te donner des informations. Alors j'ai fait plein de voyages donc j'ai essayé moi de préparer des traces. T'as pas les traces parce que normalement partout t'as les traces de ce travail et tout. Donc voilà et puis. Tu sais pas, il y a des endroits, tu sais pas ce que tu vas trouver. En fait, à des endroits, la route elle est coupée. Et c'est un pays qui est beaucoup plus pauvre. Faut oublier tout ce que t'as en tête de Dubaï, des Émirats. Faut oublier tout ça. Ça n'a rien à voir. Il y a des montagnes dans le sud. Je suis allée rouler. T'as des murs à 20%, quoi. Ça, si on fait un projet de 2000 bornes, on ne peut pas se prendre des murs à 20% pendant 10 bornes. Oui, mais on ne peut pas se faire 200 bornes comme ça, quoi. Donc voilà, c'est une logistique. Compliqué, il y a des moments où je baisse les bras. Et puis là, tu vois, cet après-midi, donc j'ai un peu parlé de mon projet ici, mais je connais pas encore grand monde et tout. J'en ai parlé parce que, si tu veux, sur Instagram, j'ai vu que je cherchais un driver pour qu'il surveille un peu derrière les voitures. Après, c'est très safe. Moi, surtout si je suis avec Steven et tout, je voudrais un driver pour les parties de nuit, surtout où là, c'est impossible. C'est un des seuls pays où d'habitude on est toujours sans assistance avec Steven. Mais je veux une assistance, j'ai pas envie de finir avec une voiture. Pourtant on prend des risques. Donc j'ai posté ça sur Instagram, mais bon voilà. Et j'ai reçu un petit message de la fédération cet après-midi qui me demande gentiment de remplir 10 formulaires, de me dire où je vais, ce que je fais. Et si tu veux, moi je suis française.
La fédération d'Arabie Saoudite du coup.
De cyclisme, ouais. Moi, ils ont très très mal amené les choses. C'est-à-dire qu'ils m'ont pas expliqué pourquoi ils voulaient savoir ça. Parce que, en fait, en même temps, je souhaite développer un projet avec les femmes saoudiennes, en 300 kilomètres. Ouais. Et donc, je pensais qu'ils parlaient de ça. Donc, je regarde les papiers et tout ça. Mais c'est ça, j'en avais parlé à une personne. J'ai jamais en contact, quoi. Ils m'avaient jamais répondu. Ouais. Et là, ils m'écrivent, je sais pas comment ils ont mes coordonnées. Et en fait, ils m'envoient des papiers. Et en fait, je me rends compte que des papiers, c'est sur mon projet personnel. Et que c'est plus des papiers de, où allez-vous? Qu'est-ce que vous faites? Et alors, nous, on le voit comme ça. Eux, ils te disent que c'est pour ta safety. Mais bon, nous, on est français. On sait pas ce que c'est, que de dire où on va. Avant le Covid, en tout cas.
C'est vrai.
Et moi, je suis quelqu'un qui a un gros problème avec la liberté. Et je sais pas comment prendre les choses. Je t'avouerai que ça arrivait il y a une heure. Donc, est-ce que je suis prête à dire où je vais? Est-ce que je vais m'en affranchir en prenant des risques? La seule fois dans ma vie où j'ai dit où j'allais, à part dans les réserves ou les zones où il faut des autorisations. Parce que ça, je peux dire que moi, je suis la reine pour choper des autorisations dans les endroits où c'est pas possible et qu'il faut des autorisations.
J'ai vu, ouais.
Voilà. Ça, j'arrive, je vais jusqu'à la mort, je saoule les gens jusqu'à la mort et j'arrive, tu vois. Mais là, se balader avec un vélo dans un pays, bon, ça, le pur principe, ça me gêne. Ça nous est arrivé une fois avec Steven. C'était au Tibet. Et je peux te dire que ça nous a fait mal au ventre. De se dire, parce que là, on avait une voiture derrière nous aussi, mais pas parce que c'était dangereux, parce qu'on n'avait pas le choix. On ne pouvait pas rouler la nuit, parce que c'est des Chinois qui occupent un territoire et qui surveillent tout. Et donc, tu payes un mec qui fait un rapport toute la journée de où ils sont, ce qu'ils font.
Et qui te surveille.
Alors, c'était le voyage était extraordinaire. Donc, oui, ça valait le coup, mais ça nous a fait mal au bide, franchement. Et ça va à l'encontre de tout ce que... Voilà. Je suis pas une rebelle, hein, je veux dire, donc voilà, je sais pas où j'en suis, la visa, faut que je pose un peu les choses. Je me dis aussi que j'ai envie, de mes buts ici, c'est d'influencer les femmes et de me dire, allez, vous êtes capables de tout, etc. Et que si au premier email et au premier truc, j'abandonne, heureusement que les femmes qui se sont battues pour le droit de vote, elles ont pas fait comme moi, parce que sinon, on en serait encore loin. Donc, si tu veux, j'essaie de voir. Et après, je discute avec mes amis saoudiens, ils me disent, mais ils ne voient pas du tout ça comme ça. Nous, on veut juste savoir où tu es. C'est pas une autorisation. Donc, en fait, c'est aussi des visions culturelles, etc. Est-ce que moi, ce projet me tient plus à cœur et que ce qui va en être retiré derrière va être positif? Voilà, donc il faut que je réfléchisse à tout ça. Tout ça pour dire que mes photos sur Instagram, ça a l'air chouette. Ah, j'aimerais trop venir en Arabie Saoudite. Il faut savoir aussi qu'il y a, dans les trois quarts des endroits, il n'y a pas d'hôtel. Je dors dans ma voiture, je me lave pas tous les week-ends et je me fais 500 bornes sur de la route hyper dangereuse pour accéder à des lieux. Voilà, c'est pas simple, mais c'est aussi le prix à payer pour vivre des choses uniques. Il y a que toi qui as vécu et créer des opportunités aussi.
Ouais, mais ça sent vraiment que l'aventure, que tu aimes l'aventure, en fait. T'es une vraie aventurière et dans l'âme et même, tu vois, dans le quotidien, je dirais. Et peut-être après pour rebondir, tu vois, sur ce que tu disais justement, enfin sur ce souci que tu peux avoir avec la fédération et ce formulaire. Bon, c'est vachement à chaud et puis je déteste les donneurs de leçons, mais moi si je me mets toujours à leur place et je me dis si j'étais eux et que je voyais une Perrine arriver dans mon pays en train de faire du vélo partout tous les week-ends, que les gens suivent, la prennent en vidéo et la postent, tu te dis mais c'est quoi ça, quoi? Et du coup forcément quand t'es une autorité quand t'es une autorité qui a connu des décennies de dictature, la guerre, bah tu reproduis le schéma et le schéma c'est d'essayer de mettre du contrôle et du coup.
Oui, mais je sais que dans le lot il y en a, c'est une volonté de protéger parce qu'en plus mais bon il y en a c'est plus pour surveiller. Voilà, comme tu dis, c'est qu'est-ce qu'elle fait là? Moi tous les week-ends j'ai des Saoudiens qui me disent mais t'es toute seule là. Mais t'es loin de chez toi, t'es seule. c'est des jeunes et à côté de ça, il y a plusieurs générations. Voilà, il y a la nouvelle génération qui essaie de s'ouvrir. Et c'est ça va prendre du temps parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a 3 ans, du jour au lendemain, ils ont donné toutes les libertés, enfin les libertés. Oui, du jour au lendemain, légalement, tu peux faire, si t'es une femme, tu peux faire ce que tu veux. Sauf que tu peux passer les lois du jour au lendemain, mais tu peux pas changer ce qui s'est passé avant, quoi. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a plus de police religieuse, on t'ira pas en prison. Mais comment tu veux dire à des gens, si tu veux, c'est sûr que déjà, ils voient des femmes conduire depuis 2 ans, ils en avaient jamais vu, quoi. Donc, là, ils te voient une nana passer à côté en vélo. C'est bon, c'est allé très, très vite, le changement. C'est allé très, très vite. Mais tu peux faire ça très, très vite derrière. Il faut que ça, moi, j'ai vécu ça au Qatar. Au Qatar, il y a 6 ans, quand je suis arrivée, il y avait encore la police religieuse. Et je me rappelle, mais la différence, c'est qu'au Qatar, la police religieuse, elle ne touchait vraiment pas les expatriés. Ici, si t'es expatrié, on va te laisser bien sûr faire, si t'es étranger, on va te laisser bien sûr plus de liberté. Mais quand même, il faut pas que tu sois quand même scandaleux. Au Qatar, bon, moi, il y avait encore la police religieuse, je faisais du vélo en débardeur, si tu veux. C'est quelque chose que je ferais pas ici, tu vois, par exemple, je voudrais voir en débardeur. J'ai vu la police religieuse au Qatar 1 mois après, elle était quasiment plus, donc j'ai très peu connu. Et puis on était très peu de femmes à rouler. Et puis aujourd'hui, je suis partie de Doha l'année dernière. C'est comme être n'importe où, quoi. Et en 5 ans, ça a mis 5 ans, quoi, tu vois. Et je pense que ça ira peut-être plus vite en Arabie, mais je sais pas. On verra.
Mais je suis curieux aussi de savoir un petit peu. J'ai l'impression que tu arrives. Bon, tu as l'expérience maintenant, mais hyper rapidement, en arrivant, quand tu es arrivé en Arabie, à très vite te trouver les groupes ou les personnes ou trouver de l'information. Comme tu l'as dit, il y a une barrière de la langue qui est énorme. Comment tu procèdes? C'est quoi? C'est, tu passes par les expats? Tu vas chercher, je sais pas, sur les fédérations,
comme tu dis, c'est de l'expérience. C'est parce que à chaque fois qu'on a monté un projet, il faut toujours trouver comme un journaliste, trouver des fixeurs sur place. Hein. Tu montes pas un projet, même les projets solo sans assistance, il te faut un fixeur sur place pour soit amener tes affaires à l'autre bout, soit savoir où tu vas partir, soit moi quand je suis toute seule, que juste qu'il y ait quelqu'un qui sache que par exemple, si tu veux, j'ai quelqu'un à l'arrivée avec qui je discute et on voit la route et puis qui connaît un tel et quand les gens me voient dans la montagne quelque part, ah ben tiens, elle c'est la fille qui connaît machin. Toi, c'est mieux quand même, même si tu fais un projet solo. Donc, comment je trouve les fixeurs? Ça dépend. Souvent, je contacte plein de gens. Parfois, je contacte des trucs de tourisme et après, on arrive en discutant. Mais souvent, ils comprennent pas ton projet. Tu contactes une boîte de tourisme et tu dis « Bonjour, j'ai pas besoin de vous parce que je veux tout faire tout seul. » Donc, c'est difficile. Tu vois, par exemple, une fois, il m'est arrivé un truc de fou en Arménie. Et c'était en Arménie. En fait, en gros, je voulais faire un truc toute seule. Mais en gros, je voulais juste qu'ils me disent où aller. Et en Arménie, l'hiver, et j'avais juste besoin de m'entraîner dans un endroit froid. Donc, en gros, je leur expliquais je voulais leur demander où c'est que je pouvais tirer ma poulka, parce que je m'entraînais pour une course en Arctique et j'étais au Qatar et je voulais savoir sur un week-end, donc juste sur 2 jours, où c'est que je pouvais aller pour tirer ma poulka et dormir dehors dans la neige. Tu vois, donc là, comment tu veux trouver quelqu'un, mais par contre, j'ai pas besoin de vous, je vais pas vous payer ou un petit peu, quoi. Donc, donc voilà, et puis en fait après tu commences à discuter avec les gens et puis te passe une personne puis un autre et là bam, je comprends. J'ai un mec qui me dit mais moi je juste tu me payes le taxi, je t'amène quelque part. Et puis bon, tu fais quoi?
C'est dingue, non?
Ça dépend. Et donc j'arrive en Arménie et là le mec il me dit un super pays, hein, c'est incroyable. Et le mec, il me dit, attends, on attend l'avion d'après. Et là, il y a des mecs qui descendent de l'avion, des athlètes avec l'équipe d'Arménie, quoi. Je me dis, mais qui c'est eux? Nous, on revient des Jeux Olympiques de la jeunesse à Lausanne. On va chez mes parents. Et moi, je vais chez vos parents aussi. Et là, dans la bagnole, la bagnole, elle roulait même pas, on se retrouve dans une tempête de neige et tout. Bon, c'est un truc de fou, je me dis, on va jamais arriver là-bas, on arrive à la montagne.
Là, tu peux la sortir, ta poulka.
Et là, j'avais juste pris mes raquettes, parce que justement, je partais que sur un week-end, donc j'avais quand même mes raquettes. Et là, on arrive dans les sur chez la famille de l'équipe d'Arménie de ski de fond. Et c'est une famille de génération en génération. Donc j'arrive chez eux et viens dormir là. Et eux, ils m'ont donné plein de conseils pour s'entraîner, machin. Tiens, tu peux dormir dehors là si tu veux. Attention aux ours. Après, ils m'ont filé des chemins de trail. Ils m'ont pas demandé d'argent, rien. Ils m'ont invité à dîner. Enfin, c'est incroyable. Et voilà. Donc ça, c'est des trucs que tu crées. Par exemple, pour l'Éthiopie, là, j'avais contacté. Il y a un Anglais qui est un ancien champion de marathon qui a une agence de pour aller s'entraîner, faire de la course à pied en Éthiopie et de tourisme. Donc là, lui, je l'avais contacté. Pareil, bonjour, j'ai pas besoin de vous. Je veux juste savoir où c'est que vous pensez que une nana peut rouler seule. Donc lui, il m'a dit, franchement, nulle part, mais je vais te filer la route et je vais juste dire tu vas juste me payer quelqu'un et il va venir dans les villages et il va te mettre, si tu veux rouler toute seule, tu roules toute seule, mais par contre, il sera là à telle heure. Ouais. À l'entrée, soit là à telle heure, et il te mettra dans l'hôtel parce que c'est trop dangereux sinon. Et en effet, il avait raison. Même il aurait pu être là tout le long. Voilà. Et c'est comme ça que je trouve des fixeurs. Et après, tu sens les gens. Tu as des contacts sur Instagram. Quand je vais en Iran rouler avec des femmes, parce que je veux rouler avec des femmes en Iran, ça c'est par Instagram parce que c'est des communautés un peu plus secrètes. Et parfois, comme tu dis, en Ouganda, fédération, la fédération, c'était génial. J'ai roulé avec plein de cyclistes locaux, Rwanda aussi, donc ça c'est fédération, ou les bike shops aussi, les magasins de vélo, parfois ils t'aident aussi, donc ça c'est pas mal. Voilà, faut sentir un peu les choses, les gens, et
t'as développé une intuition pour aller trouver les bonnes personnes ou l'information au bon endroit au bon moment.
Tu sais, parfois je me plante et parfois ils sont complètement à côté, quoi, parce que forcément là tu vois, je cherche un driver pour faire mon projet, mais ah oui, moi je suis driver. Non, en fait, on t'explique qu'il faut que tu nous suives pendant 20 heures par jour, dormir au bord de la route. Ah vous, mais pourquoi? Mais vous pouvez pas rouler 20 heures. Si, on peut, je t'assure. Mais non, c'est
et
pas
moi,
possible.
Je roule combien de temps?
Tu vois, quand on a fait le Kilimanjaro avec Steven, on voulait faire, enfin, on a réussi d'ailleurs, mais on leur dit, voilà, on monte le Kilimanjaro. Par contre, le dernier jour, on descend tout en bas et on monte tout en haut. Donc, on fait l'acclimatation. Et par contre, on descend tout en bas.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Et on fait du bas, une fois qu'on a acclimaté, on descend et on remonte. D'un coup, et on fait la course, Steven en vélo et moi à pied. Donc là, si tu veux, les mecs, ils disent oui, mais moi, je suis champion, machin. Tu parles, moi, le mien, au bout de 10 minutes, il était dans la voiture. Parce qu'en fait, là, en plus, il fallait commencer de nuit pour arriver au sommet.
Ouais.
Le matin, donc de nuit, t'as les animaux, donc t'es obligé d'avoir les rangers qui surveillent. T'as pas le droit, normalement, dans le parc de nuit, qu'il n'y ait pas les animaux qui t'attaquent. Donc du coup, on avait les rangers derrière, juste jusqu'à ce que le soleil se lève. Mais nos deux guides, ils étaient pliés en deux au bout de 15 minutes. Donc, du coup, dans la voiture. Et après, on connaissait la route. Hein, c'est pas compliqué. Mais bon, c'est... Et en fait, les gens, voilà, c'est difficile. Et je pense que les gens qui font des records, ils doivent payer une logistique de malade. Kylian Jornet qui fait un record sur le Kili, il doit avoir... ça doit coûter une fortune, quoi, parce que surtout dans les endroits où c'est payant, quoi. Voilà. Donc c'est pas facile, ça se travaille, ça s'apprend avec l'expérience aussi. Si tu refais des choses que quelqu'un a fait déjà, ça aide. Moi aussi, ça me fait pas honte de contacter quelqu'un qui a déjà fait quelque chose. Hein. Mais quand tu commences à faire des choses, même si toi après tu peux faire à ta sauce, mais quand après, de plus en plus, on fait des choses quand même que soit qui n'ont pas été trop faites ou on le fait différemment. Et puis souvent, nous, on a vraiment un petit budget, quoi. Moi, souvent, en plus, comme moi, je paye tout, je me fais jamais financer et tout. J'essaie d'être le plus ricrac possible, quoi. Et en fait, c'est pas facile, quoi. Mais Mais non, mais c'est tout l'envers du décor. Ouais. C'est sûr que c'est plus facile d'aller à ta course, de payer tes, que quand on te dit 500 euros pour un ultra, c'est cher. Ouais, il y a quand même quelqu'un qui est venu trois fois faire la trace. T'inquiète pas, si t'arrives un truc, t'as un tracker, t'appuies sur un bouton. Nous, quand on est au milieu du lac Baïkal, on appuie sur un bouton, il y a personne qui vient nous chercher. Hein. On va au milieu. Donc, il faut quand même avoir réfléchi avant à ce qu'on fait. Donc, ça la diff. Je dis pas que c'est pas difficile les courses et que c'est pas dangereux, hein, mais je dis que c'est ça la différence. Et c'est aussi pour ça que je fais des courses. Puisque tu te dis, attends, là, je vais vivre un truc de fou et en plus, j'aurais rien bossé avant.
Mais tu vois, c'est ça que je trouve hyper intéressant, je trouve, dans ton profil, c'est et c'est aussi, je l'ai compris un peu en t'écoutant, c'est quand tu fais des courses, t'as 90% de ton esprit qui est concentré vraiment sur l'entraînement et 10% un peu sur la stratégie, la logistique, l'organisation, parce que finalement c'est assez simple. Oui. Et quand tu commences à faire de l'aventure, le ratio s'inverse totalement. Tu penses plus trop à l'entraînement. Tu vas beaucoup plus penser à la logistique, aux conditions, aux risques que tu prends et tout. Je trouve que c'est super intéressant, en tout cas, à suivre et t'écouter. Et peut-être, ouais, par curiosité, je me rends pas compte, mais comme toi, t'es en permanence en train de créer des nouveaux projets, et que tu t'entraînes aussi énormément, j'ai l'impression. Alors, je sais pas à quoi ressemblent tes semaines en ce moment, mais j'ai toujours l'impression que tu t'entraînes beaucoup. Mais combien de temps, je sais pas, tu vas passer sur ton ordinateur à préparer ton prochain défi, tu vois, sur une semaine? Est-ce que tu arrives à quantifier un peu le temps que ça te prend?
Non, parce que c'est pas pareil toutes les semaines, mais ça dépend des projets. Mais ouais, je passe beaucoup de temps quand même. Hein. Puis il y a des projets qui sont en suspens depuis un moment, donc j'ai déjà réussi à créer des contacts et puis je les relance. Donc du coup, j'ai déjà il y a 6 mois, j'avais déjà bossé beaucoup dessus. Là, par exemple, sur la route de l'encens, c'est un projet sur lequel j'avais déjà réfléchi depuis avant d'arriver en Arabie. Parce que c'est ça aussi, c'est sympa de parce qu'en fait aussi tu t'intéresses à l'histoire de la route. Moi, j'ai envie de raconter l'histoire. Il y a quand même 3 civilisations qui sont passées sur cette route, les Nabatéens, les Romains, et l'islam qui est bien plus tard derrière, la civilisation musulmane. Donc c'est là tu bosses un peu sur l'histoire, donc tous tes bouquins et après tu essaies de trouver la bonne route. Donc ça s'est fait en plusieurs années sur celui-là. Après, c'est pas sportivement le projet peut-être le plus difficile, mais en tout cas, ouais, c'est peut-être le plus difficile. Enfin, c'est difficile à monter quand même, quoi. Même pour un petit projet, quoi. Après, il y a des gros projets comme genre Steven qui va préparer des gros projets en Antarctique et tout ça. Moi, j'en suis pas encore là, mais ce qui est difficile à monter, c'est tous les projets à montagne parce que faut des guides, faut des autorisations et tout, et puis il faut être accompagné, donc c'est un peu plus difficile, quoi. Le lac Baïkal on l'a monté en une semaine, tu vois, et d'ailleurs on a passé peut-être plus de temps parce que
vous avez eu quelques pépins, il me semble, mais
ouais, mais c'était parce qu'on n'a pas eu de cul avec la météo, mais c'est vrai qu'on l'a monté en une semaine. Moi, je dis allez, on y va. Kilimandjaro, bon, ça tu me diras, c'est facile, littéralement, j'ai dit à Steven lundi, allez, mercredi, t'es dans l'avion. Et voilà, donc il y a des trucs qui vont plus vite, quoi.
Ok, mais comment tu peux faire ça en une semaine? C'est quoi, tu trouves quelqu'un qui a fait plus ou moins la trace? Tu définis toi ta trace?
Il n'y a pas de trace, vraiment. C'est bien le sujet. Non, mais ce qui est compliqué, c'est en fait, si tu veux, tu vois, c'est là aussi, hein, tu vois, il y a aventure à aventure. Enfin, nous, on était tout seul. Hein. On avait quand même juste Steven avait un contact qui savait qu'on était sur le lac. Parce que nous, on pouvait pas payer une agence. C'était trop cher. Et puis surtout, on voulait le faire solo parce qu'en fait, le lac Baïkal, c'est quand même la préparation des grandes expéditions. Beaucoup de gens y vont, font la traversée solo pour savoir s'ils sont capables de préparer l'Antarctique. C'est un peu le premier step, hein, le lac Baïkal. Mais après, comme il y en a dont c'est la première fois qu'ils font une grosse expédition solo comme ça, ben en fait, ils ont quand même quelqu'un qui leur dit un ice captain. Parce qu'en fait, t'as des endroits où tu marches, et puis là, t'as un gros amas de glace comme ça, et tu peux plus avancer. Donc, il faut que tu fasses un détour de kilomètres et tout ça. Et en fait, eux, ils ont des ice captains. Je pense qu'ils sont vraiment en solitaire, mais ils ont quand même un camion qui est pas très loin et qui leur dit plus ou moins où passer. Mais si tu veux, le lac, t'as plein d'endroits où c'est l'autoroute, même si c'est dans la glace.
Ouais.
Mais au milieu du lac, t'as rien, t'es tout seul. Et tu dors dans ta tente, et ta tente, elle craque, et t'as des loups, et toi, c'est la première fois que t'es tout seul. Littéralement, c'était la première fois qu'on était sur à moins 40, vraiment tout seul de tout le monde, et que personne savait où on était. Je pense que c'est pas la même si tu sais que t'as un ice captain à un kilomètre derrière, même si tu fais tout seul et tu démerdes là, tout. Et en pleine nuit, ça nous est arrivé de croiser une voiture qui nous dit, est-ce que machin truc, elle est là? Mais qui ça? C'est la nana qui, c'est la première française qui le fait en solitaire ou je sais pas quoi. T'as raison, elle est trop en solitaire, quoi. Enfin, c'est pas du tout pareil. Mais en même temps, elle était, la personne était en autonomie totale, etc. Mais il y a une logistique quand même, tu vois, c'est tout un sujet. C'est vrai que nous, ça nous arrive aussi d'avoir parfois, Steven, parfois il a un movie maker. Tu te dis, si le movie maker, il est pas loin, mais souvent, le movie maker, il vient qu'un jour ou deux, tu vois.
Ouais.
C'est pas en général une vraie assistance. Donc, tu vois, il y a un peu tout ça. Et donc, pour la logistique du lac Baïkal, pour nous, la plus grosse logistique, c'était quelqu'un qui nous amène au départ tout en haut du lac. Donc, ça, c'était assez compliqué, déjà. Et puis surtout, on était très pris par le temps, parce que moi, j'avais qu'une semaine de vacances. Puis bon, après, il y a le Covid et tout. L'équipement, réunir l'équipement, ça c'est clairement, on n'a pas été. Je pense que Steven était trop chargé, il avait un vélo trop lourd. Tu vois, mais bon, après, on n'a pas eu de chance avec la météo. Et donc, il y avait juste une personne qui savait à peu près où on était. Et en gros, on savait que si on était vraiment dans la merde, on pourrait peut-être, si le téléphone marchait, appeler cette personne qui, si on arrivait à rejoindre un autre endroit, pourrait nous ramener. C'était pas simple, mais ça, il vaut mieux quand même toujours avoir un backup, quoi. Ça, c'est, je pense, que tous les aventuriers, quoi. T'as un moment, un endroit où tu peux avoir une extraction, mais c'est pas l'endroit où t'es, on a attendu, et puis finalement, on a quand même pu finir, mais on a avancé en voiture pendant un cinquième du parcours, donc on n'a pas réussi, quoi. Enfin, en tout cas, nous, on n'a pas caché qu'on avait avancé en voiture pendant un cinquième du parcours, quoi.
Non, mais c'est dingue, la simplicité avec laquelle tu t'en parles, et j'ai l'impression que c'est tellement naturel, tu vois, ça donne,
un
sentiment de simplicité, et que n'importe qui peut
choisir. C'est pas simple, parce que je peux dire qu'il y a des trucs, si t'arrives, j'y connais rien, quoi, t'apprends. Et surtout, tu fais des conneries, et donc, c'est grâce à ça que tu réussis, quoi, parce que c'est toutes les conneries que tu fais et que tu fais pas la voie d'après. Mais il y a des conneries, problème, c'est qu'en aventure, les conneries, il y en a qui peuvent coûter ta vie, quoi. Donc, faut pas non plus partir, salut. Non, on bosse quand même, quand je te dis une semaine, on bosse vraiment, quoi. On étudie en général, en matériel, on est bon. Là, au Baïkal, on était trop lourd, mais on est bon, on a tout ce qu'il faut en vêtements. Moi, j'ai quand même beaucoup d'expérience en haute montagne, j'ai fait beaucoup d'alpinisme et tout. Donc, le froid, c'est quelque chose que je sais gérer à part mes doigts. Mais les aléas de l'aventure, la tempête qui t'arrache la tente, les trucs. Là, on a eu un problème avec un gaz qui a fui. Ça, c'est pareil, quoi. On le refera plus d'acheter un. On a eu un problème dans la tente, j'ai cru que j'avais perdu Steven, quoi. Mais c'est des erreurs que t'apprends sur le tas, mais bon, voilà, il faut quand même, quand t'es en aventure solo, faut faire gaffe, quoi, parce que.
C'est clair. C'est clair. Tu penses pas que, enfin, moi, tu vois, quand je vous vois justement, et vu que tu mentionnes Steven, j'ai l'impression que vous tirez tellement vers le haut. Tu vois, l'un l'autre, que vous faites découvrir des nouvelles choses. Peut-être que toi, au début, tu faisais beaucoup plus de courses et qui t'a amené un peu vers l'aventure. Enfin, dis-moi si je dis des bêtises, hein, parce que c'est juste, moi, mon ressenti de l'extérieur et je suis pas avec vous, mais tu vois, j'ai l'impression que tous les deux, vous vous tirez tellement vers le haut et que, en fait, c'est tellement, je pense, quand tu fais quelque chose d'aussi extrême, peut-être que le extrême est pas, ou excessif, comme tu le disais tout à l'heure, de trouver quelqu'un qui fait la même chose, ben ça te conforte dans ta normalité, et dans ton excès entre guillemets, et finalement bah t'en fais encore plus et ça te permet de, tu vois, d'aller encore plus loin, tu vois, je veux dire, on est la moyenne des gens qui nous entourent.
Oui, non, mais ça c'est évident. En plus, on se complète sur pas mal de choses. C'est vrai que moi, j'avais quand même déjà, j'ai plus l'expérience de pour préparer les choses. J'ai beaucoup voyagé avant, donc du coup, si tu veux, les différentes cultures, les différentes trucs où tu justement trouver un fixeur où tu vas te faire, tu sens pas la personne et tout. Moi, j'ai beaucoup bougé, donc j'arrive bien à le gérer, j'ai plus l'habitude. J'avais moins d'expérience sur par exemple au Népal, moi j'avais moins d'expérience. J'ai découvert la haute altitude à vélo grâce à lui. Ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire à vélo. Donc oui, on se complète, on se tire vers le haut et puis, c'est vrai qu'il y a des choses que je pense que je ferais pas forcément toute seule. Et de faire avec lui, c'est quand même, en plus, c'est quand même mieux de partager, quoi. Ça, c'est sûr. Même si j'aime bien faire des défis solo aussi, mais ouais.
Ok. De ton côté, tu vois, j'ai l'impression que, tu vois, au niveau course, tu rêves de toutes les faire un petit peu, mais est-ce qu'il y a un défi ou un challenge qui te fait rêver plus que les autres, tu vois, si demain on te disait allez, c'est fini Perrine, il reste qu'une seule aventure.
C'est dur ça.
Ouais, je te pose une question dure,
Une que j'ai pas fait, généralement je refais pas des courses, remarque, mais une que j'ai pas fait, non, il n'y en a aucune que je me dis tiens, faut que je la fasse, non.
C'est
non, mais c'est l'année prochaine, tu vois, on va faire peut-être le marathon des sables, si je peux vivre sans. On va faire la PTL avec Steven, normalement, c'est un peu secret, mais bon, voilà, j'espère. et peut-être je vais enchaîner sur le Tour des Glaciers, si c'est possible de faire 700 km en 15 jours, je sais pas. C'est des courses qui font rêver, mais je peux vivre sans, donc non, j'ai pas en tête un truc... je pense que je reviendrai à la montagne, à l'alpinisme. Donc oui, j'ai envie de faire 8000 au Pakistan. Mais la montagne, j'ai eu aussi il n'y a pas très longtemps pris dans une avalanche. Du coup, j'avoue que oui, justement au Pakistan, et donc je pense que justement il faut que j'y retourne pour ça. Et c'est vrai que l'Everest, ça donne envie et tout, mais moi j'ai plus d'attache et de passion pour le Pakistan, donc du coup j'ai envie que mon premier 8000 soit au Pakistan. Ouais.
Ok. Écoute, je retiens ça, mais c'est hyper intéressant. Et il y avait aussi une question que je voulais te poser, peut-être j'aurais dû te la poser un peu plus tôt, mais tu vis des aventures de vie, je trouve, qui sortent tellement de la zone de confort, on va dire, d'un urbain ou d'un occidental moyen, tu vois, qui a sa petite vie tranquille. Est-ce que tu vois, travailler sur tes peurs, c'est quelque chose que tu fais? Tu vois, typiquement, tu vois, tu racontes l'histoire de Snapchat tout à l'heure. Il y a plein de gens qui auraient flippé, quoi, tu vois, et qui auraient tout de suite arrêté ou qui se seraient cachés. Toi, tu continues. Il y a la peur des défis, mais il y a aussi la peur de l'aventure, de la rencontre. Là, tu te rends compte, tu es aussi face à une peur, face à tes libertés. Est-ce que c'est un truc que tu bosses, quoi, ou que tu...
Alors moi, je suis très peureuse. J'ai peur de tout. J'en parlais il y a pas longtemps, justement. J'ai peur de tout. Et généralement, quand j'ai peur, j'y vais. Sauf il y a un moment où, par exemple, tu vois, la semaine dernière, tu vas rigoler, quoi. J'étais la première fois que je roulais dans les dunes, dans le désert, en voiture, et je suis pas une excellente conductrice. Enfin, je suis une bonne conductrice de route, mais j'avais jamais fait de off-road, dunes et tout ça. Et il y avait un groupe et tout, et j'avais surtout l'impression de pas y arriver, quoi, tu vois, d'être pas bonne et tout, mais bon, ils m'expliquaient rien aussi, tu vois, et j'étais vraiment dehors de ma zone de confort. Il y avait plein de gens, qui arrivaient bien, et moi pas très bien, et à un moment, je suis restée, ma voiture, j'ai cru qu'elle allait faire un tonneau, alors que, à mon avis, elle allait pas du tout le faire. Et là, j'ai pété un plomb. mais je me suis pas contrôlée. Et j'avais une copine à moi à côté, et je me suis pas contrôlée. Et là, je dis, j'ai pas envie d'être là. Et ça, c'est quand, en général, j'ai peur, mais que surtout, je m'en veux de pas y arriver. Et en général, quand j'ai peur, je veux arriver à surmonter ma peur. Et en fait, quand je me dis, je suis en train de pas y arriver, et ben, là, je me contrôle plus. Et donc, j'étais là, mais je veux pas être là. Pourquoi je suis là? Et en plus, j'ai peur. Et puis, je vais te tuer dans la voiture. Mais tu sais, vraiment n'importe quoi, tu vois. Et elle m'a dit, c'était quand la dernière fois que tu as eu peur comme ça? Et c'était à Taïwan sur une course ultra. Ouais. Où en fait j'ai fait une chute, il y avait un petit passage pas très long de 20 bornes dans la jungle et de gravel, et c'était là, et moi ça a avéré que je l'ai passé la nuit et j'étais très fatiguée parce que j'avais fait beaucoup de courses et tout, je suis tombée et je suis phobique des serpents, donc il y avait des serpents littéralement qui tombaient des arbres et tout, et je suis tombée, je me suis ouvert le genou et je suis sortie de là et tout, et je suis arrivée et je dis, je veux pas être là, je suis fatiguée. Et en fait, ça, c'est parce que j'avais peur de pas réussir à finir la course. Et en fait, je me rends compte, et en fait, oui, c'est intéressant parce que j'analyse mes peurs, je me dis que le moment où je me contrôle plus, c'est quand je suis dans l'échec. Et finalement, j'ai plus peur de l'échec que de la chose que je suis en train de faire. Donc, okay. Je pense que c'est, et pourtant, j'ai eu plein d'échecs dans ma vie qui m'ont fait avancer. Mais ça, c'est assez intéressant. Et tu vois, elle m'a dit un truc la dernière fois. Elle me dit, tu sais, tu devrais, pour te contrôler, imaginer que tu as un enfant à côté de toi et que tu dois pas lui transmettre ta peur. Et je pense que ça, je vais me servir de ce conseil pour les prochaines choses que je fais où je suis un peu stressée.
Bah écoute, hyper bon conseil effectivement, tu vois, en plus pour moi qui suis papa, forcément ça me parle.
Oui,
de
voilà,
pas transmettre ses peurs à un enfant, et je trouve ça hyper intéressant que t'aies intellectualisé le fait que t'as plus peur de l'échec que de la peur en elle-même, tu vois ce que je veux, enfin je sais pas comment tu l'as exactement les mots que t'as utilisés, mais je trouve que c'est un concept hyper intéressant, tu vois, de pour retourner la peur, de se dire, ok, bah si j'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe? Et, t'as mentionné des échecs qui t'ont appris beaucoup. Je sais pas, il y en a un ou deux qui te viennent en tête ou que t'aimes bien te rappeler.
Enfin, mon plus gros échec dans ma vie, c'est j'ai raté le bac. je suis avocat et docteur en droit. Voilà. sur du très scolaire. C'est un échec que j'ai porté très longtemps. Et c'est, je pense, pour ça que j'ai été jusqu'au doctorat. Pour montrer que j'avais raté le bac, alors que ça sert absolument à rien d'avoir un doctorat. En tout cas, pas pour moi. Ça m'a fait perdre du temps. Mais,
on t'appelle docteur Perrine?
Bah alors jamais, jamais, parce que quand tu es avocat, en général, on n'aime pas trop les docteurs. En revanche, depuis que je suis au Moyen-Orient, à Doha, je me rendais compte que tout le monde appelait les docteurs docteurs. Et du coup, en arrivant ici, maintenant, je me fais appeler docteur au bureau. Et du coup, c'est trop marrant parce que la dernière fois, je suis partie avec une agence de tourisme d'Arabie qui m'a amené, qui me voulait montrer un coin pour j'allais m'entraîner pour traverser la Manche. Bon, bref. Et le pilote du bateau qui parlait pas du tout anglais, il est arrivé, bonjour docteur Perrine. J'étais mort de rire, c'était un pêcheur, quoi, dans un petit village, il m'appelait docteur. C'est rigolo. Là, ici, ils sont très titres, quoi. Donc, voilà, c'est la première fois de ma vie qu'on m'appelle docteur.
Ok, d'accord. Bon, bah, écoute, pour la petite anecdote.
Non, notre échec sportif, c'est l'enduroman, évidemment, la première fois où j'ai fait l'enduroman, où j'ai échoué. Qui a été pour régler le problème, je l'ai refait moi après, voilà. Donc,
Ouais, bah, je vais pas te faire raconter l'histoire une fois de plus, tu vois, moi je la connais bien, et puis j'invite les auditeurs qui ne la connaissent pas à aller écouter, je pense que tu l'as raconté sur d'autres podcasts aussi, et l'histoire est super belle, et c'est vrai que tu vois, je trouve que c'est une vraie histoire, tu vois, un vrai exemple de motivation et de détermination, parce que mine de rien, enfin, tu cites cet échec là, mais tu vois, j'ai l'impression que c'est pas nécessairement de ta faute, quoi. T'as juste, il y a eu un changement de météo, c'est les courants qui se retournent un peu contre toi, et finalement.
Mais tous les échecs sont pas forcément de ta faute, hein. Je veux dire. Ouais. Il y avait plein de raisons. Il y avait des raisons où il y a des choses que j'aurais pu changer aussi. Et voilà, c'est l'histoire d'un échec. Pourquoi ? Parce que j'avais vraiment tellement investi dans ce truc, tellement. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai échoué, tu vois. Je pense que c'est très rare que... Parce que tu vois, tu dis, je m'entraîne beaucoup et tout, parce que tu as en tête sans doute l'année d'entraînement de l'enduroman, ouais. qui a été où j'ai vraiment tout donné, tout sacrifié. Je dis pas que je m'entraîne pas aujourd'hui, mais c'est sûr que c'est de manière beaucoup plus raisonnée que ce que j'ai fait pour l'enduroman, où j'ai donné tout, quoi, tout. Et tout pour réussir. Et peut-être que tu vois, quand t'arrives avec trop de pression comme ça, et la deuxième fois, j'avais vraiment mais tellement pas de pression. Enfin, si quand même, parce que j'avais remis des sous. Mais bon, personne n'était au courant que je le refaisais. J'avais pas trop embêté, parce que c'est ce qui me gênait aussi, c'est que voilà, j'avais mobilisé des gens pour m'aider. Et non, ça, j'avais pas fait. J'avais mobilisé des gens, mais des amis et tout. Et me dire voilà putain je les ai fait venir pendant que parce que tu dois attendre à Londres que la Manche s'ouvre et que tu puisses traverser tout ça donc ouais je mon coach c'était vraiment investi pour moi donc j'avais surtout déçu des gens enfin pas déçu je pense que les gens ils étaient déçus pour moi et moi j'étais déçu pour les gens
donc c'est okay. Ah bah donc, des fois voilà. Tu sais c'est les sources de motivation c'est aussi les autres quoi tu vois ça en fait partie ouais.
Ouais, mais bon, moi, tu sais, au final, mes amis et mes parents, ils s'en foutent, quoi. Ils sont contents si je suis contente après que j'ai réussi ou pas. Ouais.
Et il y a des défis qui te font peur, tu vois, ou des défis où tu te doutes encore de ta capacité à pouvoir les réaliser.
Non, je pense qu'en travaillant et en préparant, tu peux quand même faire pas mal de choses. Après, je te dis, la montagne me fait flipper parfois. Enfin, me fait flipper. Ouais. J'y vais, mais je sais qu'elle fait ce qu'elle veut. Et que, en ayant eu des expériences, voilà, je sais qu'on peut mourir et tu réfléchis à ce que je mets ma vie en jeu ou pas. Et après, ce qui me fait aussi et qui m'attire, mais que je suis pas encore du tout commencée, c'est la mer. Donc, je pense que peut-être un jour on verra sur un bateau, mais j'ai zéro expérience. Hein, donc,
ouais. Ok. Et, mais je voulais te poser vraiment rapidement peut-être les questions. Peut-être que je vois que ça fait déjà une heure. Ouais. Mais tu vis un quotidien de beaucoup. Tu vois, d'athlète d'ultra, c'est-à-dire que t'as une vie dans laquelle, enfin, tu travailles beaucoup. En plus, j'ai l'impression que t'as une carrière assez brillante. Tu vois, ça se sent. T'as un parcours universitaire studieux. On propose pas. Généralement, on propose pas aux gens mauvais d'aller s'expatrier très loin. On propose aux gens qui sont très bons et très brillants et qui ont des bons résultats aussi. Et je me suis demandé, tu vois, moi, une des questions que je me posais, c'est comment est-ce que tu arrives à faire un peu la scission cérébrale entre ces deux vies, entre, alors c'est la même Périne, tu vois, mais il y a d'un côté il y a Maître Périne, de l'autre côté il y a Maître Phage, pardon, excuse-moi, de l'autre côté il y a Périne l'aventurière qui effectivement
ouais, c'est deux vies quoi, c'est deux vies, c'est ça qui est bien aussi quoi. Parce que si je faisais que le sport...
C'est aussi exaltant d'un côté que de l'autre ?
Non. c'est pas que j'aime pas ma carrière ou quoi que ce soit, mais c'est pas pareil, quoi. C'est plus d'enjeux, quoi. Ouais, c'est du stress, quand même. Hein. Moi, le boulot, en expat, c'est du stress, parce que c'est toujours compliqué de se comprendre. T'es toujours sur des postes où... Bah, tu peux sauter du jour au lendemain. Tu fais la tille ouais. Et ici, tu fais ici ou dans plein de pays, hein, tu fais une connerie sur laquelle tu t'es pas backupé, tu sautes, tu rentres, tu prends tes affaires et tu rentres chez toi, quoi, dans l'heure, quoi. Ouais. Bon, ça, c'est pas un problème parce que moi, je suis avocat, la responsabilité de mes actes, je l'ai depuis début de ma vie professionnelle. Et je pense que j'ai toujours été comme ça, même quand j'étais serveuse. J'ai toujours eu la responsabilité de mes actes et tout. Je pense que les deux m'aident. Par exemple, ma vie sportive m'aide dans ma vie personnelle à me dire que voilà, ça va relativiser les choses aussi. tout finit par s'arranger. Même si jamais il se passe quelque chose dans ta vie pro, de toute façon, les choses finissent toujours. Il y aura sur un autre poste qui va mieux. Bon, après, moi, je suis assez fidèle aux entreprises pour lesquelles je travaille en général. Donc, non, c'est deux vies différentes. C'est assez. Alors, c'était pas très opaque chez Bein dans le sens où quand j'étais au Qatar, où ils étaient assez impliqués dans ma vie sportive et ça les intéressait beaucoup. Dans mon nouveau boulot, je suis une autre personne, quoi. Ils sont même pas au courant que je fais du sport. Donc okay. c'est bizarre, quoi. Mais enfin, si mon boss, mon big boss, oui, mais les autres pas trop, ça les intéresse pas trop. Donc ça, c'est bizarre de pas du tout parler de ce que j'ai fait le week-end. Enfin, si maintenant il y a quand même quelques personnes et ça veut dire où je leur raconte ce que j'ai fait le week-end, mais pas tous. Alors qu'avant, l'ancien boulot, tout le monde était au courant. Et c'est marrant parce qu'ils sont pas du tout. C'est moi qui leur fais découvrir l'Arabie Saoudite, quoi. Ah bon, c'est où cet endroit? Ah bon? Je leur montre les photos, ils font, mais c'est pas en Arabie. Je ne sens pas très les grands voyageurs dans leur propre pays. Donc voilà. Et ouais, c'est deux milieux, deux choses que je coupe quand même. Non, ma carrière c'est important parce que j'y passe 8 heures par jour et que j'ai pas envie que ce soit ennuyeux. Après, est-ce que c'est exaltant? Oui, c'est exaltant, c'est des bons coups de stress quand même, quoi.
ouais, bien sûr. Mm. Bien sûr. Mais non, mais t'as toujours ce côté-là un peu où, effectivement, quand une partie de ta vie, c'est tellement fort, c'est tellement intense, ça te prend tellement aux tripes, que t'as un côté un peu redescente, tu vois, redescente d'adrénaline un peu quand t'es au boulot et que c'est assez, en tout cas pour moi, c'est très très dur de retrouver de la concentration, tu vois, ou de retrouver vraiment un engagement et de pas y penser, tu vois. Si là, par exemple, tu es en train de préparer un projet, bah, j'arriverai le matin au boulot, j'y penserai aussi, tu vois, et j'arriverai pas à être aussi concentré que je devrais sur mon
job. Moi, ça va parce que ça va depuis que je suis juriste. Quand j'étais avocat, je me rappelle clairement quand j'étais en train de péter un plomb, de me dire je veux plus être avocat, je supporte plus. Et en fait, je venais juste de changer de cabinet et le mec était un fou furieux. J'étais encore en période d'essai et je rentre d'aller voir les Raymantins en Papouasie. J'atterris à 7h du mat, je vais direct au bureau. Et là, le mec, il jette des trucs sur ma collègue et moi, il m'attrape le bras, tu vois. Il me touche le bras. Et tu vois, j'étais encore en Papouasie, quoi, dans ma tête. Et là, j'ai regardé. Je dis... Non mais Richard, là je vais partir parce que là c'est plus possible et j'ai posé madame, je me suis barrée quoi. Et donc clairement j'avais encore la tête là-bas et tu vois voilà c'est là où je me dis oh, je veux plus cette vie-là et c'est là où j'ai bougé après en entreprise pour trouver quelque chose de plus équilibré. Je dis pas que tous les cabinets d'avocats sont comme ça, hein, c'est pas du tout. J'ai été des années hyper heureuses etc. Mais je crois qu'aussi je voyais plus d'évolution dans mon boulot. Je me voyais pas être associée, j'avais pas les ambitions et je me voyais pas être collaboratrice à 40 ans, me faire traiter mal. Donc du coup partir en entreprise et surtout dans une entreprise du sport, c'était vraiment quelque chose d'une suite logique et c'était une très bonne chose pour moi. Ouais.
OK. Bon bah écoute, merci de m'avoir partagé tout ça et puis je pense c'est bien aussi d'en parler parce que tu vois, on mine de rien, les athlètes qui s'entraînent énormément, on vit tous la même chose et parfois on a l'impression que c'est un peu un sujet tabou, tu vois, du métier qu'on a à côté parce que tu vois, on s'amuse tellement dans le sport, on s'amuse tellement dans les projets, dans les aventures que on oublie de parfois
Dans le trail où la plupart même des athlètes pro sont tous ils ont tous un boulot quoi, c'est pas le cas forcément des triathlètes mais
bien sûr.
Ouais dans le trail ils ont tous un boulot quoi à côté hein.
Ouais mais bien sûr.
Même les pros quoi. Sûr.
Ouais. Ouais on peut pas en vivre à 100% et c'est même de toute façon c'est un vrai métier je pense pour les athlètes qui sur des sports qui ne sont pas olympiques trouver un peu leur chemin parce que il y a pas forcément le contexte, enfin les structures, les infrastructures, les mécanismes qui permettent voilà de facilement accéder au financement de du sport, et il faut vraiment se débrouiller tout seul, et c'est un vrai job d'entrepreneur, de commercial, que d'aller chercher des sponsors, que d'aller faire ça, donc Et écoute, j'ai quelques mini questions pour la fin. Tu peux y répondre hyper rapidement et après je te libère. Mais en tout cas, faut m'arrêter aussi. Hein. Moi, je suis très gourmand. Je passe un super moment. Donc, si tu me dis Bart, on se calme. Mais voilà, la question que je me posais, c'est est-ce que t'as des gris-gris, des porte-bonheur, des choses que t'as souvent avec toi et qui te rappellent des bons souvenirs pour.
Non. J'en avais quand je faisais du cheval, j'avais toujours des petits gris-gris, j'avais toujours les mêmes affaires, en fait. Je mettais toujours un truc porte-bonheur, quoi. J'en ai pas maintenant, on a aujourd'hui. Avant, je me faisais, j'avais un rituel, c'est d'aller me faire les ongles avant une course. Okay. Plus maintenant. J'ai pas le temps.
Ça marche. Non, c'est, merci d'avoir partagé ça, en tout cas. Il y a un livre, un film que t'as lu, vu récemment, et que tu partages aux gens autour de toi.
Non, alors moi je regarde pas trop de films, j'ai pas trop le temps. Les bouquins en général que je lis, c'est des bouquins soit de montagne avec des récits, soit de Tesson en général.
Vas-y, vas-y.
La Panthère des Neiges, c'est pas récent, quoi. Mais c'est sûr qu'en plus quand on est allé au Baïkal, c'était quand même cool d'avoir lu avant. Donc ça c'est bien.
Ok, donc La Panthère des Neiges. Ok, écoute, je ne connaissais pas.
Mais tous les bouquins de Tesson, hein, de toute façon, tous ces bouquins, c'est que des bouquins d'aventure, c'est très très bien écrit, donc.
C'est vrai.
Ouais, c'est facile à lire.
C'est une belle référence. Trop chouette, merci beaucoup. Si quelqu'un, tu vois, vient te voir et te dit, je sais pas, ça. Qui te dit bah écoute Perrine, j'adore ce que tu fais, moi aussi dans 6 ans j'aimerais faire le Tour des Géants ou traverser le lac Baïkal, qu'elle part un peu de zéro cette personne là qu'est-ce que tu lui recommanderais?
De bosser après je vais lui dire aussi de passer des étapes, mais moi j'en ai brûlé beaucoup, donc c'est un mauvais exemple, mais en général quand tu les brûles tu vois, en ultra notamment, quand tu brûles des étapes, tu fais des expériences que tu aurais pu découvrir en passant des étapes avant. Donc t'es pas obligé. C'est mieux de passer des étapes quand même. Mais t'es pas obligé. Mais il faut bosser dans tous les cas, ça c'est sûr.
Et c'est pas un truc qui t'a agacé d'ailleurs, que j'ai l'impression qu'il y a un. Enfin, tu vois, effectivement, t'as brûlé des étapes, et j'ai l'impression qu'on te l'a dit aussi, ou qu'on te l'a reproché, et que c'est quelque chose qui a renforcé un petit peu ta volonté d'aller encore plus vite dans les étapes ou dans le fait de les brûler. Je me trompe.
Non, on m'a pas dit ça, mais il y a plein de gens qui te disent oui, tu peux pas faire ça si t'as pas fait ça avant, tu vas te blesser, tu vas gna gna gna. Et ouais, bah du coup, ça donne envie d'aller au bout. C'est sûr que bon, voilà. Mais bon.
Ouais. Ok. Eh ben, écoute, trop chouette. La toute dernière question que je pose, c'est un petit peu comme un passage de flambeau. C'est plutôt un passage de micro. C'est de savoir quelles seraient les personnes que tu me recommandes, tu vois, d'aller interviewer justement pour parler un peu performance, organisation, aventure, double vie, tous les sujets qu'on a pu un peu aborder. Qui est-ce que je sais pas, tu aimerais bien raconter l'histoire?
Alors moi je connais pas trop de je fréquente pas énormément de monde qui font dans mon milieu et tout, mais bon, j'aime beaucoup les vies de trailers professionnels, donc oui, pourquoi pas. T'as eu déjà des trailers? Oui, t'en as déjà eu un paquet.
Ouais, bien sûr. Mais j'ai eu Benoît Gérondel, j'en ai beaucoup. Là, je dois bien. J'ai eu Sylvain Cussot aussi. J'ai peut-être d'autres noms là qui arrivent, mais oui, j'en ai eu beaucoup, ouais, bien sûr.
Ben moi, j'aime bien Cathy et Germain Granger. J'aime bien ce qu'ils font. J'aime bien les suivre. Okay. Ils sont rigolos et qui font beaucoup de montagnes. Ils vivent dans un endroit très beau et ils sont très inspirants. Et c'est des sacrés athlètes. Et ouais, Et surtout, ça peut être sympa de les avoir les deux en même temps, par exemple, en interview. Tu peux leur faire une interview en anglais.
Bah écoute, ouais, je vais leur proposer. Tiens, c'est une bonne idée. C'est une super bonne idée. Ouais. Merci infiniment, Perrine. J'ai passé un super moment. J'étais content de pouvoir aussi t'amener sur des sujets sur lesquels on est un petit peu moins que d'habitude, sur le pro, l'organisation, la logistique, même si bien sûr ça fait partie intégrante de ta vie. Et donc je me suis régalé et voilà, j'ai passé un super moment. Donc merci infiniment pour ce moment là quoi.
Bah, merci de m'avoir reçu, hein, et puis c'est gentil.
À bientôt, Perrine.
À bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao !